négocier, aider. Certains, en Europe et ailleurs, proposeront alors de renoncer à se défendre, de réduire les budgets militaires, de désarmer unilatéralement, de collaborer avec l'ennemi. Naîtront ces États post-nationaux dénucléarisés, pacifistes et soumis, dont rêve dès aujourd'hui, parmi d'autres, le philosophe allemand Jürgen Habermas. D'autres encore, soucieux de préserver la paix sans se soumettre, tenteront de faire preuve d'imagination diplomatique. L'Organisation des Nations Unies essaiera de mettre en œuvre les procédures prévues par sa charte pour la négociation, la prévention des conflits, la dissuasion. Pour que les questions en litige puissent être traitées de façon plus confidentielle, des institutions discrètes de prévention de la violence se multiplieront sur le modèle de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe de la communauté de Sant'Egidio, organisation catholique discrète et efficace, de la fondation du président Carter, qui remplit remarquablement ce rôle depuis plus de 20 ans, ou encore de celle, plus récente, du président Clinton. Le rôle de ces institutions ad hoc, entreprises relationnelles particulières, sera de déceler à l'avance les sources de conflits et les zones de tension, de tenter de trouver des accords entre les belligérants potentiels et de les faire respecter. Elles devront disposer pour cela de considérables moyens d'observation, de surveillance, d'analyse et de prévention. Elles devront aussi avoir suffisamment d'influence pour que les accords passés sous leurs auspices soient respectés. On les retrouvera dans la vague suivante de l'avenir comme facteur essentiel de la paix. Pour éviter la guerre, les démocraties de marché essaieront aussi d'étendre le règne de la liberté à ceux qui pourraient devenir leurs ennemis. Elles aideront ceux des pays encore incertains qui le voudront à rejoindre leur rang, c'est-à-dire à organiser la séparation des pouvoirs religieux et laïcs, à se débarrasser de milices terroristes, à jeter les bases d'une économie de marché. Action en général illusoire, comme le montre ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, narco-État où le trafic de drogue représente aujourd'hui les 9 dixièmes de la richesse produite, ou en Irak, où s'est installé un chaos absolu, à moins d'être accompagné de la mise en place d'une société civile efficace qui ne peut venir que de la société elle-même. Ceux des États qui refuseront une telle évolution vers la démocratie resteront agressifs et seront traités comme tels par les démocraties de marché. Dissuader les régimes agressifs. Face aux États durablement agressifs, la dissuasion sera toujours nécessaire et son absence toujours désastreuse. En octobre 1936, face à la remilitarisation de la Ruhr par les troupes nazies, Halifax et Blum ont laissé faire et la guerre eut lieu. En octobre 1962, face à l'installation de fusées soviétiques à Cuba et le refus de celles-ci par les frères Kennedy, la paix n'a pas été rompue. Au début des années 1980, François Mitterrand a appuyé l'installation de fusées américaines en Europe, aidant ainsi à faire disparaître la menace soviétique. De même, aujourd'hui et demain, ceux qui voudront vivre libres dans des démocraties de marché ne pourront accepter la présence, face à eux, d'armes offensives contrôlées par des groupes annonçant ouvertement leur objectif, les détruire. Nul ne sera à l'abri d'armes qui, en premier lieu, viseront d'autres cibles. Les fusées de Corée pointées sur le Japon viseront un jour les États-Unis et la Chine. Celles d'un Pakistan tombé entre les mains de fondamentalistes menaceront l'Inde, puis l'Europe. Celles du Hezbollah, autrement dit de l'Iran, qui visent aujourd'hui Israël, seront un jour pointés depuis Beyrouth ou Téhéran sur le Caire, Riyad, Alger, Tunis, Casablanca, Istanbul, puis Rome, Madrid, Londres et Paris. Celles de la Chine, si le parti se durcissait pour éviter sa propre liquidation, pourrait viser un jour le Japon et les États-Unis. Les démocraties ne devront pas se laisser impressionner par de telles menaces. Si par peur des représailles, elles acceptent que soient durablement braquées sur elles les fusées iraniennes, pakistanaises ou coréennes, elles feront un marché de dupes, comme le firent la France et la Grande-Bretagne en 1936, puis en 1938 à Munich. Avec une probabilité plus grande encore, car ces armes pourront être lancées de 15 endroits différents par 15 régimes dictatoriaux différents et aux objectifs contradictoires. Pour les éliminer, l'Alliance devra d'abord menacer les régimes concernés d'actions préventives, mettre en évidence ses propres capacités de frappe, intimider pour faire reculer. Si cela ne suffit pas à faire disparaître ces menaces, il faudra frapper. Attaquer préventivement. Aucune dissuasion ne sera possible contre les pirates parce qu'ils n'ont pas de territoire à défendre. Leur céder en un lieu ne suffira pas à les calmer. Les mafieux ne se contenteraient pas du contrôle de la Colombie ou de l'Afghanistan. Les extrémistes islamistes ne se contenteraient pas de la destruction d'Israël, ni du retrait américain d'Irak ou d'Arabie Saoudite. Contre les pirates, il n'y aura que l'attaque préventive. L'Alliance et chacun de ses membres se prépareront donc à mener préventivement la guerre à ceux de ces pirates ou à celles des nations où ils auront trouvé refuge, qui menaceront d'utiliser leurs armes au service d'une foi, d'une ambition laïque ou pour la recherche d'un profit criminel. Naturellement, l'Alliance ne devra pas, pour justifier une telle guerre préventive, inventer des intentions bellicistes ni prendre prétexte d'armes de destruction massive imaginaires comme ce fut le cas pour la guerre contre l'Irak en 2002. L'Alliance ne pourra pas à la fois fonder sa politique extérieure sur les droits de l'homme et les violer quotidiennement. Sans doute le fera-t-elle. Les optimistes diront que ces roulements de tambour ne doivent pas être pris trop au sérieux. Un pays ou une entité non étatique accédant au statut de puissance nucléaire ou disposant d'armes extrêmement meurtrières devient nécessairement raisonnable. La meilleure preuve en est que le sont devenus, jusqu'ici, tous ceux qui ont reconnu, officiellement ou officieusement, détenir de tels arsenaux. Les optimistes ont en partie raison. Des démocraties où le pouvoir est contrôlé par l'opinion publique, ou des régimes totalitaires ayant largement souffert de la guerre, n'en feront jamais un usage offensif. Mais plus le nombre d'acteurs du jeu stratégique est élevé, plus augmentera le nombre de ceux d'entre eux qui seront mus par des fous, ou pour qui la mort, des autres, y compris celle de leurs troupes, ne comptera pas. Plus s'élèvera alors la probabilité de voir ces armes utilisées. Le monde vivra donc de plus en plus hanté par la peur de l'anéantissement nucléaire, de la guerre miniaturisée, de la guerre en réseau, de la guerre suicide. De fait, quatre types de conflits éclateront avant l'hyperconflit. Guerre de rareté, guerre de frontières, guerre d'influence, guerre entre pirates et sédentaires. Guerre de rareté, pétrole et eau. Comme on s'est battu pour le charbon et le fer, on se battra pour le pétrole, l'eau et les matières rares. D'abord, et comme depuis un siècle, l'approvisionnement en pétrole, de plus en plus difficile et coûteux, déclenchera nombre de conflits. Les États-Unis, qui consomment un quart du pétrole du monde, dont près des deux tiers viennent encore de l'extérieur, voudront absolument garder le contrôle de leurs sources d'approvisionnement. Ils entendront continuer à contrôler l'Arabie Saoudite et l'Irak. Ils souhaiteront aussi reprendre le contrôle de l'Iran pour empêcher un blocus du détroit d'Ormuz qui priverait la planète d'un cinquième de la production mondiale et propulserait les cours jusqu'à $250 le baril. la présence américaine en Asie centrale sera de plus en plus considérable, à la fois pour surveiller ce qui se joue en Iran et pour éviter que la Chine ne fasse main basse sur la région. Les États-Unis contrôleront plus que jamais le golfe du Mexique et voudront s'assurer que le Canada, le Mexique et le Venezuela ont, au moins, des dirigeants dociles. Des conflits pourraient aussi éclater sur la base de prétextes pétroliers en Asie centrale, entre la Chine et la Russie, entre les États-Unis et la Chine, entre la Turquie et l'Iran. Le Kazakhstan s'imposera comme arbitre et comme puissance régionale. Les autres principaux pays consommateurs, l'Union européenne, le Japon, la Chine et l'Inde, voudront eux aussi conserver, par la force si nécessaire, un accès aux gisements du Moyen-Orient, de Russie, d'Afrique et d'Asie centrale, ainsi que le contrôle des zones par où ce pétrole est acheminé vers la mer. Aux marges de la Russie, où se trouvent d'innombrables pipelines, des guerres civiles sans merci, souvent financées par des compagnies pétrolières rivales, ruineront les régions de transit. Pour les mêmes raisons, le Venezuela, le Nigeria, le Congo, l'Indonésie, dont les gisements seront un jour épuisés sans même avoir permis d'y édifier des économies modernes, pourraient aussi devenir, ou redevenir, des zones de conflit. Enfin, les zones maritimes où seront localisés les principaux gisements futurs et par où transiteront les convois de tankers seront autant de lieux d'affrontement possibles. L'eau potable, de plus en plus rare, on l'a vu, provoquera, elle aussi, des guerres de plus en plus significatives. Au cours des 50 dernières années, on s'est déjà battu 37 fois pour elle, de façon toujours très localisée. Cela ne pourra que se rééditer. 145 nations ont une partie de leur territoire située sur un bassin transfrontalier. Environ un tiers des 263 bassins transfrontaliers sont partagés par plus de deux pays. 19 bassins concernent au moins 5 pays. La troisième réserve souterraine d'eau douce du monde, la nappe du Guarani, est disputée entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Le bassin du Danube est partagé par 18 nations et les crises des Balkans y trouvent en partie leurs racines. Demain, quand l'eau potable commencera à manquer, ces batailles deviendront beaucoup plus sévères. L'Inde, manquant d'eau, pourrait vouloir détourner les trois plus grands fleuves nés en Inde qui se jettent dans la mer au Bangladesh. La pose par le Liban de pompes sur la rivière Ouazzan, affluent du Jourdain alimentant le lac Tibériade et fournissant dès maintenant à Israël le tiers de son eau potable, déclenchera un conflit. Le projet de contrôle des eaux de l'Euphrate et du Tigre par la Turquie inquiétera la Syrie et l'Irak. Le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan se disputeront de plus en plus les fleuves Amoudaria et Sirdaria, essentiels à la culture intensive du coton. Des barrages hydroélectriques en Chine, où le Mékong prend sa source, menaceront de priver d'eau le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Le Mexique et les États-Unis se disputeront le Colorado et le Rio Grande. Le Sénégal et la Mauritanie pourraient se battre pour le contrôle du fleuve Sénégal. L'Algérie, la Libye et le Tchad pourraient aussi s'affronter pour l'exploitation de rares nappes phréatiques transfrontalières. L'Albanie, la Grèce et la Macédoine risquent d'entrer en conflit pour les mêmes raisons. Enfin et surtout, 10 États se partagent les eaux du Nil. Or, l'Éthiopie, en amont, qui fournit 86% du débit et n'en utilise que 0,3%, entend construire 36 barrages. Ils assécheraient en partie l'Égypte, provoquant un conflit immédiat. Enfin, le dérèglement du climat provoquera des guerres pour occuper des terres restées ou devenues respirables et cultivables. La Sibérie, le Maroc, l'Algérie, l'Espagne du Sud pourraient devenir des champs de bataille. Guerre de frontières, du Moyen-Orient à l'Afrique. Plusieurs pays feront la guerre à leurs voisins pour réunifier des peuples. Ce pourrait être le cas entre l'Inde et le Pakistan pour le contrôle du Cachemire et entre de très nombreux pays d'Afrique subsaharienne pour rassembler des ethnies. D'autres chercheront aussi à détruire un voisin. Plusieurs pays arabes continueront de vouloir anéantir l'État hébreu, qui devra gagner contre eux toutes les guerres sous peine d'anéantissement. Les irréductibles de la région déclencheront d'ailleurs les hostilités dès que s'annoncera un accord de paix entre Israël et ses voisins. La victoire de la démocratie donnera aussi naissance à de nouveaux conflits au sein même de nombreuses nations, pour remettre en cause une domination ethnique, pour provoquer une sécession ou pour l'éviter. Aujourd'hui, plus de 40 conflits de ce type se déroulent à l'intérieur de 27 pays. Ils perdurent pour certains depuis plus de 10 ans, pour la plupart en Afrique et en Asie. Ceux de ces conflits qui ravagent la Côte d'Ivoire, le Darfour, le Cachemire, le Congo, le Sri Lanka sont les plus meurtriers. Le Congo en est à 3 millions de morts. Si ces nations ne sont pas capables d'organiser leur partition dans le calme, comme le firent l'URSS et la Tchécoslovaquie en 1992, on ira vers des guerres civiles qui se concluront par la création d'États nouveaux, comme en Inde ou en Yougoslavie, ou par la ruine générale, comme au Rwanda, en Transnistrie, en Somalie, en Côte d'Ivoire ou en Éthiopie. Des conflits de ce genre se déclencheront au Congo, en Russie, en Asie centrale, entre Russie, Géorgie, Arménie, Turquie et Iran, au Sénégal, en Inde, en Chine, en Indonésie, aux Philippines. Le Nigeria connaîtra sans doute le pire de ces affrontements entre Ibos et Haoussas. D'autres conflits du même genre pourraient avoir lieu entre divers groupes à l'intérieur des pays développés. Des villes s'y déclareront même en sécession. Des minorités ethniques ou linguistiques revendiqueront leur indépendance. Des partages de territoires s'y passeront mal. Il faut ainsi s'attendre à de très nombreuses guerres civiles, et donc, comme à chaque fois, à la désignation de boucs émissaires à éliminer. Comme à chaque fois, seront alors perpétrés des génocides, avec les armes les plus sommaires. Trois au moins de ces massacres se sont déjà déroulés au XXe siècle, contre les Arméniens, les Juifs et les Tutsis. Beaucoup d'autres auront lieu au XXIe siècle. Et ceux qui ne veulent pas y croire n'ont qu'à se souvenir que personne en 1938 ne pensait possible la Shoah. Guerre d'influence. Comme par le passé, certains pays iront aussi jusqu'à faire la guerre à leurs voisins pour tenir leur rang et détourner leurs opinions de préoccupations internes ou pour mener un combat idéologique ou religieux. Ainsi, l'Iran ou le Pakistan pourraient se lancer dans la guerre pour prendre le contrôle de la région allant de la Palestine à la frontière chinoise. Le Nigeria pourrait vouloir contrôler les matières premières environnantes en occupant ses voisins. Le Kazakhstan pourrait se battre pour contrôler l'ensemble des régions turcophones qu'il disputerait à la Turquie. Comme ce fut souvent le cas, la Russie pourrait faire la guerre pour ne pas être encerclée, cette fois par les alliés asiatiques des États-Unis, par la Chine et par l'islam. La Chine pourrait entrer en conflit pour reprendre Taïwan, pour contrôler le Kazakhstan, pour occuper la Sibérie, pour mettre au pas son rival japonais, ou pour permettre à un parti unique menacé de conserver le pouvoir. Les États-Unis pourraient entrer en guerre pour défendre Taïwan ou Israël ou l'Europe contre des armes pointées depuis l'Iran, l'Égypte ou le Maghreb. L'Inde pourrait partir au combat pour contrôler des régions frontalières et détruire les bases arrières de rebelles musulmans. L'Indonésie pourrait être tentée d'occuper les vastes terres désertes d'Océanie. L'Australie pourrait entrer en guerre pour repousser les ambitions de ses voisins. Enfin, de très anciens conflits d'ambition, aujourd'hui totalement inconcevables, pourraient redevenir d'actualité. Entre la Grèce et la Turquie, ou entre le Mexique et les États-Unis si l'un ou l'autre de ces pays devenait un jour une dictature. Guerre entre pirates et sédentaires. De tout temps, des pirates ont attaqué des sédentaires au nom de l'argent, de la foi, de la misère, d'une idéologie ou d'une ambition nationale, avec peu de moyens et sans montrer aucun respect pour la vie humaine. L'Empire romain en est mort. L'ordre marchand risque d'y succomber. Sur toutes les mers, comme dans l'Antiquité la plus reculée, la piraterie, criminelle ou politique, continuera de faire la loi et d'interrompre les relations entre les sédentaires. D'après les rares statistiques disponibles, la piraterie maritime aurait ainsi quadruplé de 1995 à 2006. Elle continuera d'augmenter, en particulier autour du détroit de Malacca, par où transite près de la moitié du commerce pétrolier mondial, et aux Caraïbes, où circulent de plus en plus de bateaux chargés de drogue. La Méditerranée redeviendra, elle aussi, un lieu majeur d'exaction. Celles-ci auront également lieu sur les axes traversant les déserts et dans les quartiers populeux des grandes villes du sud comme du nord. La piraterie continuera aussi de s'en prendre aux lieux de tourisme de masse des nomades virtuels. Tout ce qui se déplace sera considéré par les pirates à la fois comme une cible et comme une arme. Avions, camions, trains, bateaux et tous les réseaux de communication. Les pirates, religieux, nihilistes ou seulement criminels, frapperont les sédentaires par surprise, pour faire peur, cherchant non seulement à rafler un butin, mais aussi à couper les lignes, à fermer les détroits, à arrêter les échanges, le commerce, le tourisme, la circulation. Ils attaqueront les terres, réelles et virtuelles, de l'Empire avec des virus réels et virtuels, transformant les premières victimes en armes nomades qui sèmeront la mort autour d'elles. Ils chercheront à désarticuler les systèmes de surveillance, effraieront les sédentaires pour qu'ils cessent totalement de se déplacer, d'entreprendre, de créer, de se distraire et qu'ils s'enferment dans leur bunker. Ils utiliseront toutes les armes des entreprises modernes, avec des avant-gardes, des groupes locaux, des cirques et des théâtres. Certains de ces pirates, et pas seulement parmi les mouvements d'inspiration religieuse, recourront aux attentats suicides. Les premiers attentats de ce genre furent le fait de nihilistes russes à la fin du XIXe siècle, puis de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, plus récemment d'indépendantistes tamouls au Sri Lanka. Des mafias s'en sont aussi déjà servies, en actionnant des bombes humaines involontaires. Des terroristes islamistes en ont utilisé en Europe et au Moyen-Orient, en particulier au Liban et en Israël. Les attentats au Kenya en 2000, à New York le 11 septembre 2001, puis à Casablanca, à Madrid et à Londres, s'inscrivent dans cette histoire, sans constituer ni une rupture, ni un changement de nature. Un jour, peut-être moins éloigné qu'on ne le croit, l'on verra aussi des pirates de misère, sans motivation théologique, se faire sauter dans les centres-villes d'Europe. On verra aussi des convois de bateaux suicides chargés d'enfants venus du Sud exploser en pleine Méditerranée, en direct devant les caméras de télévision. Les maîtres du monde polycentrique, puis de l'hyper-empire, tenteront de s'opposer à ces actes en transformant l'alliance militaire défensive en une organisation de police mondiale. Des mercenaires, à la solde de l'alliance, détruiront les bases de repli des pirates, mèneront des combats de rue dans les quartiers occupés par des bandes mafieuses, intercepteront leurs raids avant qu'ils n'atteignent leur cible. Ils les feront s'entretuer et retourneront contre eux la colère des infranomades. Les populations civiles seront prises entre tous ces feux. À ce rythme, encore une fois, ce n'est pas l'Afrique de demain qui ressemblera un jour à l'Occident d'aujourd'hui, mais l'Occident tout entier qui pourrait demain faire songer à l'Afrique d'aujourd'hui. L'hyperconflit. Quand se défera le monde polycentrique? Quand tenteront de s'installer des corsaires, des pirates, des armées privées, des mercenaires, des terroristes? Les régimes totalitaires s'entretueront, sans reconnaître aucune loi de la guerre ni aucun arbitre. Des pays du Nord s'associeront à des pays du Sud. Des terroristes islamistes s'allieront à des cartels de la drogue. Il y aura à la fois des guerres chaudes et froides, des guerres privées et étatiques. Polices et armées se confondront sans plus respecter les moindres lois de la guerre. Les populations civiles seront des proies qu'atteindront toutes les armes de destruction massive. Les religions du livre s'opposeront entre elles pour la plus grande gloire de leurs adversaires. Certains théologiens y verront le signe du déclenchement de la bataille marquant dans la Bible la fin des temps, celle qui doit déboucher pour les Juifs sur la venue du Messie, pour les chrétiens sur son retour, pour certains musulmans sur celui de l'imam caché. Dans tous les cas, diront-ils, elle se terminera par la victoire du bien sur le mal. Si, une fois l'hyper-empire en place, toutes ces sources de conflits se conjoignent un jour en une seule bataille, si tous les acteurs dont il a été question jusqu'ici trouvent quelque intérêt à entrer l'un après l'autre dans un même affrontement, se déclenchera alors un hyper-conflit. Son déclenchement pourrait avoir lieu à Taïwan, au Mexique ou au Moyen-Orient, tout lieu de confluence des principaux conflits reposant sur l'eau, le pétrole, les religions, la démographie, l'écart nord-sud, la contestation de frontières. Il pourrait aussi partir d'une attaque éclair contre l'Occident, d'un Iran allié au Pakistan, devenu l'un et l'autre puissances nucléaires islamiques. Aucune institution ne serait plus alors capable de négocier des compromis ni d'enrayer l'engrenage. Le monde deviendrait un immense champ de bataille où s'entrechoqueraient nations, peuples mercenaires, terroristes, pirates, démocraties, dictatures, tribus, mafias nomades, groupes religieux, se battant les uns pour l'argent, les autres pour la foi, le sol ou la liberté. Toutes les armes dont il a été question plus haut seront alors utilisées. L'humanité qui dispose depuis les années 1960 des moyens nucléaires de se suicider les utilisera. Il n'y aura plus personne pour écrire l'histoire, qui n'est jamais que la raison du plus fort. Rien là d'impossible. La tragédie de l'homme est que lorsqu'il peut faire quelque chose, il finit toujours par le faire. Pourtant, bien avant que l'humanité n'ait ainsi mis fin à son histoire, du moins voudrais-je le croire, l'échec de l'hyper-empire et la menace de l'hyper-conflit conduiront les démocraties à trouver assez de ressorts pour vaincre les pirates et repousser leurs propres pulsions de mort. Les armées de l'Alliance balayeront les dictateurs. Les cartels de la drogue seront maîtrisés. Les grandes entreprises ne joueront plus leur avenir sur la croissance des commandes militaires. Toutes les religions s'apaiseront et deviendront des forces de paix, de raison et de tolérance. Des forces nouvelles, déjà à l'œuvre, prendront le pouvoir afin de créer un monde juste, apaisé, rassemblé, fraternel. Alors, comme après la chute de l'Empire romain, renaîtront sur les ruines d'un passé prometteur gâché par une trop longue série d'erreurs, une formidable envie de vivre, de joyeux métissages et des transgressions jubilatoires. En surgiront de nouvelles civilisations, faites des résidus des nations exsangues et de l'hyper-empire en déshérence, nourrie de valeurs nouvelles. Une démocratie planétaire s'installera, limitant les pouvoirs du marché. Elle tentera de gagner d'autres guerres, beaucoup plus urgentes, contre la folie des hommes, contre le dérèglement climatique, contre les maladies mortelles, l'aliénation, l'exploitation et la misère. Se lèvera alors la troisième vague de l'avenir, celle de l'hyper-démocratie. Voici l'esquisse de son histoire.